feuille, bon sang. Tchac, bon sang. C'est de la bouillie, tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais.
Je savais pas que l'amour, c'était une maladie. En tout cas, vous vous risquez rien. Vous vous êtes fait vacciner.
19h, 20h.
Heureusement que j'ai des nerfs, sinon... Vous imaginez, si je suis sur scène sans nerfs du tout, alors vous direz, oh, que l'aime moche.
Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts, façon puzzle.
Bienvenue à vous tous dans Bande à part. Nous allons parler de Piotr Ilitch Tchaïkovski, 1840-1893, l'incarnation du lyrisme. Figurez-vous que Tchaïkovski est joué dans toutes les salles de concert du monde entier, mais que pendant un certain temps, il fut l'objet d'une sorte de rejet. Musique trop facile, disaient les uns. Lyrisme évident. Carole Beffa, Marc Lambron, Samuel Blumenfeld et Josiane Savigno. Et pour commencer, nous allons diffuser le concerto pour piano et orchestre numéro 1 sur lequel il a travaillé et travaillé. C'est Martha Argerich que l'on ne présente pas avec le Philharmonique de Berlin. Nous sommes en 1983. Des notes célèbres qui sont jouées partout dans le monde. Tchaïkovski appartient à une famille d'aristocrates, famille nombreuse, avec une mère souffrante, un peu austère, qui disparaîtra assez rapidement, mais qui l'a beaucoup marqué. Il fait des études, il rentre dans un ministère, mais la musique l'emporte évidemment. Et Tchaïkovski va devenir le compositeur russe, ou en tout cas l'un des compositeurs russes les plus célèbres de l'histoire de la musique. Il se trouve que Katharina Valente a donné une version inspirée du premier concerto pour piano. Nous étions en 1954 et Marc Lambron, que je salue, que j'embrasse, va vous en parler.
So But tomorrow, will it be gone, or will it always live on? Tonight we love.
Voilà, on a oublié que Katharina Valente fut une star mondiale pendant des années et que cette voix donc a parcouru tous les continents. Cette version Tonight We Love inspirée du premier concerto pour piano, enregistré en 1954. Marc, d'habitude, votre kiff dans la vie, c'est à la fois les Rolling Stones, Eric Clapton, les groupes de rock sudiste et puis des choses que vous dégotez comme Katharina Valente et que vous aimez pour quelles raisons?
D'abord, elle est toujours vivante, Katharina Valente. Elle est née le 14 janvier 1931, elle a donc 93 ans. Alors, c'est une cosmopolite remarquable. Sa famille, c'était des Italiens du Latium. Son père est accordéoniste, sa mère est chanteuse. Elle naît française à Paris, mais elle épouse un jongleur allemand. Et elle va faire sa carrière.
Je sais pas où il va en venir.
Elle va faire sa carrière en Allemagne et en allemand au point qu'elle incarnait la voix du miracle économique des années 60. Mais ça s'élargit à Hollywood. Alors elle chante de la bossa nova, elle apparaît très souvent dans l'émission Le Show de Dean Martin. Mm-hmm. Elle a chanté en duo avec Armstrong, Fitzgerald, Bing Crosby ou Chet Baker. Il n'y a plus beaucoup de personnes sur la planète qui puissent s'en targuer. Donc là, on a entendu en effet une adaptation du premier concerto pour piano, qui en fait avait été une première fois réalisée par un orchestre jazz d'un certain Freddie Martin en 1941 avec un chanteur oublié qui s'appelait Clyde Rogers. Donc là, c'est 1960 en fait, avec l'orchestre de Werner Müller, et c'est typique de ce qu'on peut appeler le style international des 60s. Nana Mouskouri en serait un autre exemple.
Carole, première question avant que nous écoutions donc le premier choix qui est le vôtre, à savoir donc un extrait du Lac des Cygnes. Pourquoi Tchaïkovski a été boudé pendant des années, vous qui êtes le pont de la musicologie, puis maintenant joué un peu partout, notamment par Gergiev, qui parcourait avant la guerre toutes les salles de concert avec Tchaïkovski sous le bras?
C'est vrai qu'il a été boudé par une grande partie de l'avant-garde des années 50.
Non, mais même par les salles de concert.
Oh, pas à ce point. Alors, disons
un peu.
Oui, il y a quelques compositeurs qui étaient peu joués dans les années 50-60 et qui l'ont été beaucoup plus par la suite, comme Brahms, comme Mahler, qu'on redécouvre grâce à des chefs d'orchestre aussi différents que Bernstein et Boulez, par exemple, ou encore Raphaël Kubelik. Dans le cas de Tchaïkovski, il a été considéré comme le compositeur de la mièvrerie pathétique. Mmh. Lucien Rebatté, un critique qui partageait les options esthétiques de l'avant-garde, écrivait de Tchaïkovski, je le cite, que sa musique de névropathe...
Mais pas que ça dans sa vie, hein, Lucien Rebatté. C'était quand même
il était partisan du nazisme.
Un salopard absolu.
Non, enfin, non. Fasciste, oui.
Il écrivait de Tchaïkovski que sa musique de névropathe ne raconte que la nostalgie d'un bonheur pour midinette ou les niaiseries langoureuses communes aux invertis vieillissants.
Je vous ai donné la parole, c'est parce que vous êtes la quintessence du savoir dans ce domaine. Est-ce que vous considérez comme musicien, comme compositeur et comme interprète que justement il y a une part de qui expliquerait ce succès, ou est-ce que tout ça est un faux procès?
Ce qui explique son succès, c'est un certain génie de la mélodie que Mozart avait à peu près un siècle auparavant et que à peu près un siècle après Prokofiev recueillera. C'est un certain sens des proportions aussi, alors qui peut d'ailleurs agacer certains. On va considérer que c'est trop symétrique, qu'il y a des carrures trop régulières. Mmh. Mais enfin, ce nouveau classicisme à l'époque du romantisme a quelque chose de tout à fait apollinien qui pouvait plaire. Mais en fait,
il a tout étudié, parce qu'en dehors de ses études de droit, il y a le piano, la flûte, la composition, le contrepoint, l'harmonie.
Est-ce qu'il n'a pas été revivifié par les États-Unis? Est-ce que ce russe n'est-il pas un musicien américain à certains égards?
Peut-être. Alors, il faisait partie, si on regarde les palmarès des compositeurs les plus joués aux États-Unis à la fin des années 80, des plus joué, peut-être même dans mon souvenir le plus joué, avec Copland qui pour le coup l'était énormément et assez peu en Europe. Donc c'est possible que la lumière qui s'est levée à l'est se soit en réalité levée à l'ouest.
La voici, Marc. Ah bon. Un tout petit peu Tchaïkovski, nous évidemment reviendrons à vous avec la déférence qui s'impose, suite au plus 20 du Lac des Cygnes, Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé par Mico Franck. Nous sommes en 2021, car allez-vous dialoguer, c'est tout à fait normal, mais la musique l'emporte. Connaître le Lac des Cygnes, encore un mot de biographie important dans l'affaire Tchaïkovski, si l'on peut dire. En juin 1854, sa mère meurt du choléra, ça le précipitera définitivement vers la musique, et c'est aussi à cette période que commencent ses premiers émois platoniques pour des amis, des garçons. Tout à l'heure, Robatet parlait d'une manière épouvantable de son homosexualité. En tout cas, à cette époque, il aimait beaucoup Alexei Apoukine ou Vladimir Djar, qui furent ses amis. Mais revenons à ce Lac des Cygnes, parce que là, la question que je vous posais tout à l'heure, la réponse est évidente, c'est jouer dans le monde entier tout le temps.
C'est jouer dans le monde entier tout le temps, ça va l'être d'ailleurs à l'Opéra Bastille, dans la chorégraphie de Nureyev du 21 juin. Au 14 juillet prochain. La version de Nureyev d'ailleurs a ceci d'intéressant, que c'est une version à résonance psychanalytique et introspective. La personnalité de Tchaïkovski a suscité bien des interrogations.
Je viens de l'évoquer.
Et tout à fait, mais également dans le domaine de la fiction. Hein, c'est vraiment un personnage romanesque, Tchaïkovski, et on va le voir sans doute également cinématographique. Le Lac des Cygnes, c'est assez incroyable, parce que dans ce thème sublime qu'on vient d'entendre, on a l'impression, quand une phrase s'élève, prend de l'ampleur, gagne en lyrisme, que Tchaïkovski peut aller encore plus loin, toujours plus loin dans ce lyrisme. On a l'impression que cette soif de pathos n'est jamais assouvie et qu'elle va toujours un peu plus loin. Et ces élans lyriques incroyables font, je crois, tout le prix de cette musique pour bien des auditeurs.
Voici la symphonie numéro 6, dite pathétique, qu'on retrouve dans Le Soleil Vert, film de Richard Fleischer en 1973. Évidemment, Samuel Blumenfeld est là, au garde à vous, informé, le roi des informés. Nous avons beaucoup parlé, mon cher Samuel, de l'influence de Maurice Ravel sur la musique de film. Tchaïkovski, on a l'impression que c'est fait pour les films.
Absolument. C'est fait, mais de manière, en fait, très surprenante, presque à contre-emploi. Ce quand on parle de Soleil Vert, bon, Soleil Vert, c'est quand même ce film très très étrange qui survient en pleine vague de nouvelle Hollywood, réalisé par ce vétéran hollywoodien qui est Richard Fleischer, l'homme de Vers midi sous les mers, l'homme également d'Étrangleur de Boston, l'homme d'une quarantaine de très bons ou très grands films, et qui réalise en 73, presque en catimini, le film, le thriller écologique apocalyptique ultime. C'est-à-dire que véritablement, dans Soleil Vert, nous sommes en 2022, donc presque 50 ans après la réalisation du film. Nous sommes après une catastrophe écologique, suite à un réchauffement climatique. Déjà, pour la première fois, c'est évoqué au cinéma. Et il n'y a presque plus rien à manger. Désormais, l'humanité se nourrit avec des plaquettes vertes.
Et puis, quel acteur ?
Ce qu'est l'acteur Charlton Heston et Edward G. Robinson. Et donc, une humanité qui se nourrit avec des plaquettes vertes, soi-disant du plancton. Et en fait, là où surgit la méthode de Tchaïkovski, c'est pour la mort d'Edward G. Robinson, qui décide d'être euthanasié. Et l'euthanasie, dans ce monde futuriste, consiste à être allongé un petit peu, comme la ciguë du temps des Grecs. Et Edward G. Robinson est devant l'écran.
Vous vous rendez compte qu'on est un dimanche, nous sommes tranquilles, nos amis nous écoutent, et vous leur promettez un destin funeste.
Et on ne peut plus funeste, parce qu'Edward G. Robinson est devant un écran, il voit une nature magnifique, une nature qui n'existe plus, au son de la musique de Tchaïkovski, et il veut mourir pour une raison simple, parce qu'il est désormais le détenteur d'un secret inavouable, le secret le plus terrible de l'histoire du cinéma, à savoir que le soleil vert, ce n'est pas du plancton, ce sont des humains. Et donc, Tchaïkovski apparaît au cinéma, en fait, comme le musicien de l'apocalypse.
Le voici encore, mais cette symphonie numéro 6 pathétique est réorchestrée dans Le Kid de Charlie Chaplin en 1921. Tout à l'heure, nous parlions de Ravel. Chaplin était un grand admirateur de Ravel qu'il a reçu à Hollywood. Et le voici avec Tchaïkovski par la main. C'est vrai que Beffa et Lambron savent tout faire, mais Chaplin n'était pas mauvais dans ce domaine aussi.
C'est beaucoup plus dire. Donc Chaplin, comme chacun sait, bon, est un musicien autodidacte, pianiste autodidacte, violoniste autodidacte. Et il aimait énormément, en fait, réorchestrer certains musiciens classiques. Et c'est Tchaïkovski, plus tard il le fera avec Rimsky-Korsakov, avec Wagner pour Le Dictateur. Ce qui est très intéressant ici, c'est que il utilise Tchaïkovski pour l'une des séquences les plus célèbres du Kid. C'est que le moment où justement le vagabond va être séparé de cet autre vagabond enfant qu'il a adopté par les autorités. Dans cette scène marquante, en fait, Chaplin avait décidé d'emblée qu'elle serait orchestrée, ou du moins réorchestrée par lui. Ce serait du Tchaïkovski réorchestré par lui. Donc il avait averti toute l'équipe là-dessus et demandé à Jackie Coogan, donc le jeune gamin qui joue en face de lui, de calquer ses gestes déjà sur la musique de Tchaïkovski. De manière plus tragique, on va dire encore une fois, on est dans le Tchaïkovski apocalyptique, le problème de Chaplin était de faire comprendre à Jackie Coogan que ce qui se passait était éminemment dramatique. Donc pour le préparer, Chaplin lui avait dit « Dis-moi, Jackie, tu sais ce qui se passe, là tu vas imaginer que tu vas devoir quitter de force tes enfants. » Et donc il lui avait tellement seriné cette histoire-là que le gamin est absolument effondré devant la caméra.
Et voici la marche slave, philharmonique de Vienne, dirigée par Laurine Mazel. Marc veut dire quelque chose, il ne va pas s'en priver. Après donc cette marche que voici. Thank you. depuis le début de cette émission avec le concerto pour piano et orchestre, évidemment le Lac des Cygnes, la symphonie pathétique, son adaptation par Chaplin, vous comprenez ce goût de Tchaïkovski démesuré pour la mélodie et pour son expression la plus, son expressionnisme le plus poussé. Première question, Carole, et après j'en viendrai à Marc. Les Russes de cette époque, le groupe des Cinq par exemple, quelle est la position de Tchaïkovski? Il a été solitaire dans cette musique russe ou est-ce qu'il s'est raccroché à Rachmaninov, à Korsakov, enfin à tous ceux qui ont défini la grande musique russe de cette époque?
Alors, Rachmaninov, c'est un peu plus tard. S'agissant effectivement du groupe des Cinq qui revendique une forme de russitude et qui refuse, dans une certaine mesure en tout cas, les apports de l'Occident, Tchaïkovski, lui, effectivement, est un peu solitaire et sur la même position que lui, d'autres occidentalistes, on va dire, comme les frères Rubinstein, par exemple, chef d'orchestre, compositeur, pianiste. Donc oui, il est un peu en marge. Il entretient, à titre personnel, de très bons rapports avec Rimsky-Korsakov, par exemple. Mais ce n'est pas le sixième Beatles du groupe des Cinq.
Voilà. Avant la remarque de Marc, je voudrais qu'on écoute Riccardo Chailly, le chef d'orchestre de la Scala de Milan, sur l'influence de Tchaïkovski sur Rachmaninov qui viendra plus tard. Écoutez.
The greatest example and composition.
Le plus grand exemple et modèle de composition qu'il a toujours gardé à l'esprit toute sa vie était Tchaïkovski. De fait, le lien entre les deux est donc extrêmement fort et évident. Si vous écoutez le premier concerto en version originale qu'il a composé à l'âge de 18 ans, c'est un miracle de beauté, mais aussi un signe évident de la force de l'influence de Tchaïkovski sur Rachmaninov. Par conséquent, la figure paternelle de Tchaïkovski avec Rachmaninov constitue, je pense, une combinaison formidable et essentielle d'un siècle de tradition dans la musique romantique russe.
Et voici pour cette filiation, Marc, vous vouliez dire.
Non, me tourner vers Samuel pour, si je ne me trompe, il y a eu deux films biographiques consacrés à Tchaïkovski. Il y a le Music Lovers de Ken Russell, avec Richard Chamberlain et Glenda Jackson, et plus récemment La femme de Tchaïkovski. Absolument. Je ne sais pas ce qu'on peut en dire, moi j'ai un souvenir très fort, très, presque traumatique de Music Lovers.
Absolument, Music Lovers, donc la symphonie pathétique en français de Ken Russell, oui. 1971, c'est un des grands films de Ken Russell.
Oui.
Vraiment, et c'est une des grandes biographies filmées d'un musicien classique. Parce qu'il y a un genre quand même pas évident, il n'y a pas tellement de grands films sur des musiciens classiques, et celui-là est particulièrement réussi. Le film de Serebrennikov, donc qui est un grand metteur en scène russe, désormais exilé, en fait, opposé à Vladimir Poutine, le film de La femme de Tchaïkovski est également très bon. Et en fait, Tchaïkovski est peut-être le musicien classique qui se prête le mieux à la biographie. Peut-être en partie en raison de son homosexualité.
Voici Roméo et Juliette, l'ouverture avec l'Orchestre National de France dirigé par Christian Masselaru. Nous sommes en 2021 et c'est évidemment encore Tchaïkovski et c'est Carole qui conclura avec Marc.
Thank you.
Je reviens à quelques éléments biographiques. L'année 1876 est marquée par sa relation épistolaire avec Nadjeda von Meck, grande admiratrice du compositeur qui va lui verser pendant 13 années une pension alimentaire de 6000 roubles par an, ce qui permet à Tchaïkovski de vivre d'une manière confortable. D'ailleurs, après l'empereur, lui aussi, Alexandre III, versera 3000 roubles par an à Tchaïkovski, même si les relations donc entre cette femme et Tchaïkovski resteront épistolaires. On arrive évidemment au nœud dramatique de cette vie qui est racontée par des compositeurs, qui est racontée par des metteurs en scène et même parfois par des romanciers. Il épouse Antonina Miliukova, donc une de ses anciennes élèves, alors que d'une certaine manière son homosexualité était donc de notoriété publique. Mais ça reste, et c'est la conclusion que je voudrais avoir avec vous, ça reste, alors c'est pas la marque de sa musique parce que ce serait vraiment totalement réducteur, mais le nœud dramatique de cette vie finalement qui intéresse tous ces gens qui tournent autour de Tchaïkovski comme créateur.
Oui, effectivement, ça fait partie des choses auxquelles on s'intéresse, auxquelles d'ailleurs le nouveau pouvoir poutinien s'intéresse aussi à sa façon, tout simplement en gommant totalement cette homosexualité. La plupart des musicologues officiels ont décrété que Tchaïkovski n'était pas homosexuel, c'était une invention de l'Occident. Ici, ce qui est intéressant avec cette ouverture de Roméo et Juliette et ce passage en particulier, c'est que on est à l'opposé du Tchaïkovski, compositeur des symétries, de l'élégance, des carrures régulières, le compositeur léché, chez qui rien ne dépasse. C'est au contraire l'exubérance, la démesure, avec ce allaitement insoutenable, une espèce de musique sur-schumannienne, si j'ose dire, que l'on ressent vraiment corporellement, je veux dire, cette incroyable montée rythmique, sous la forme d'un immense crescendo, comme mouvement perpétuel, elle est physiquement ressentie par l'auditeur. Donc Tchaïkovski, c'est à la fois le compositeur de l'intériorité, de l'intimité, et aussi celui du pathos, de la démesure.
Et j'ajouterai un mot peut-être pour le succès de Tchaïkovski ces derniers temps, mais vous allez me le confirmer, Carole, le grand chef d'orchestre russe, Valéry Gergiev, qui passe pour un peu la star de la profession aujourd'hui, une sorte de Karajan contemporain, à chaque fois qu'il se promène dans le monde, il se promène avec Tchaïkovski, partout où il joue.
Je crois, effectivement, oui.
Ouais. Marc Lambron.
On pourrait le comparer à Shakespeare, qui fait à la fois le roi lire et le songe d'une nuit d'été. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la 6e symphonie qui donne envie de se jeter dans la Neva. Mm-hmm. On dit d'ailleurs qu'il s'est quasiment suicidé en buvant de l'eau empoisonnée du fleuve. Et en même temps, il y a les féeries, Casse-Noisette ou le lac des Cygnes. Et donc, voilà, il y a ces deux couleurs, ces deux tonalités qui en font aussi un compositeur avec un spectre très ouvert.
Très ouvert et un succès mondial, bien évidemment. Très rapidement et tout au long du XXe siècle et encore aujourd'hui, puisqu'il est abondamment joué dans toutes les salles de spectacle. Nous consacrons ce bande à part à Piotr Tchaïkovski. Nous avons rendez-vous avec Eugène Onéguine dans un instant.
Mardi, Radio Classique met en lumière le Festival de Pâques d'Aix-en-Provence. Un rendez-vous incontournable de la scène musicale internationale. Au programme de cette 11e édition qui se tiendra du 22 mars au 7 avril, Renaud Capuçon, Jérémy Rorer, Insula Orchestra, Elisabeth Leonskaya, Alexandre Kantorov, mais aussi des jeunes talents et de grands orchestres francophones. La grande journée Festival de Pâques d'Aix-en-Provence, c'est mardi sur Radio Classique avec le CIC, partenaire fondateur.
La petite.
Mes condoléances pour votre fils.
La mère porteuse n'était pas dans l'avion.
Et... on va quand même pas abandonner ce bébé.
Fabrice Luchini, dans un de ses rôles les plus touchants.
Bonsoir, je suis le père d'Emmanuel.
Barrez-vous de chez moi.
Je remplace mon fils, quoi.
Il était moins relou que vous.
La petite.
C'est ma petite fille. Je ne lâcherai pas.
Déjà en VOD, à l'achat et en location sur la TV d'Orange. Tarifs et conditions sur orange.fr. Avec Radio Classique.
Le génie de Mozart est éclatant dans Così fan tutte. Les ensembles vocaux de ces six personnages en quête d'amour comptent parmi ses plus belles œuvres. Christophe Rousset dirige les talents lyriques, le chœur Stella Maris et d'émouvantes voix mozartiennes. Ensemble, ils nous invitent à redécouvrir un chef-d'œuvre puissant dans une mise en scène contemporaine de Dmitri Tcherniakov, où le jeu devient une question existentielle. Così fan tutte, au Théâtre du Châtelet, du 2 au 22 février. Renseignements sur châtelet.com.
Une partition passée de main en main, oubliée, confisquée, attribuée à un autre. La sonate de Pâques, composée par Fanny Ensel Mendelssohn, a longtemps été attribuée à son frère, le grand Félix Mendelssohn. La pianiste Françoise Tillard interprétera sur un piano Érard romantique cette sonate inédite, ainsi que les estampes de Debussy et les chants du ghetto de Joseph Kosma. Rendez-vous dimanche 4 février à l'Entrepôt à Paris. Réservation sur l'entrepôt.fr ou sur place.
La scène musicale présente Gisèle, la nouvelle création de Marie-Claude Pietragala et Julien Derouault. Puisant leur récit dans les violences faites aux femmes, les chorégraphes offrent une nouvelle interprétation du célèbre ballet classique, accompagné de 15 danseurs. Un spectacle à l'énergie combative. Gisèle, du 14 au 17 mars, réservation sur lascenemusicale.com.
10 ans déjà que le Quatuor à Rhodes s'est imposé sur les scènes d'Europe, des États-Unis ou du Japon. Qu'il a reçu les plus hautes récompenses de prestigieux concours internationaux. Que la critique salue leur talent et leur rare énergie. Le Quatuor à Rhodes sera dans quelques jours à Paris pour interpréter Tchaïkovski avec l'éclatant Souvenir de Florence et Haydn, les Quatuors à cordes opus 76, où le compositeur est à l'apogée de sa maîtrise. De Vienne à Florence, par le Quatuor à Rhodes, samedi 3 février à 16h, au Théâtre de la Ville Les Abbesses, à Paris.
Blackmore, 1925. Sur cette île coupée du monde, un culte maléfique sévirait dans l'ombre. Des disparitions sèment la terreur. Commence alors une course contre la montre diabolique pour la Française Lorraine Chappelle, une jeune criminologue, et le Britannique Edward Pierce, spécialiste des sciences occultes. Entre mensonges et confidences, ce duo improbable devra démêler le vrai du faux pour percer le mystère des disparus de Blackmore. Les disparus de Blackmore, le nouveau thriller d'Henri Lovenbruck, est disponible aux éditions Pocket.
Garde à vous, dans un instant, la suite de Bonaparte.
Renew. Renew, c'est une large gamme de véhicules d'occasion adaptés à tous les besoins. Renew, véhicules d'occasion électriques, hybrides, essence ou diesel, reconditionnés et certifiés. Et en ce moment, profitez de votre véhicule Renault d'occasion avec 3 ans d'entretien et 3 ans de garantie pour seulement 1 euro de plus. À découvrir dans le réseau Renault. Voir conditions sur fr.renew.auto. Renew. Pensez à covoiturer.
Parce qu'il faut un permis de conduire pour les orchestres,
hein? Ah, naturellement, depuis 6 mois, on exige le permis, bien sûr. Il y a eu trop d'accidents, il y a eu trop de couacs, trop de notes écrasées.
19h, 20h.
Quand je parle de mon permis de conduire les gros orchestres, n'est-ce pas? Les orchestres symphoniques.
Oui, permis poids lourd, en quelque sorte.
C'est ça, oui, parce que oui, c'est ça, exactement.
Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
Notre petite nostalgie personnelle, Jean Poiret et Michel Serrault. Tchaïkovski, au cœur de ce Bande à part, le voici dans un opéra créé en 1879, chanté par Benjamin Bernheim avec le Philharmonique de Prague en 2018. Il s'agit d'Eugène Onéguine.
Oh.
presque 20 ans plus tard, Tchaïkovski mourra le 6 novembre 1893, mais l'émission est loin d'être terminée à Saint-Pétersbourg, dans l'appartement de son frère. Donc, 9 jours après la création de la 6e symphonie, la pathétique, il bénéficie, avec l'appui de la famille impériale, donc de funérailles nationales, près de 10 000 personnes, à la cathédrale Notre-Dame de Kazan, auquel donc assistent des gens de l'aristocratie russe, de la famille royale, et ceux qui portent son cercueil sont souvent, par exemple, des très proches, comme Alexandre d'Oldenbourg, carrément le cousin de l'empereur. Voici une version, évidemment, adaptée de l'œuvre de Tchaïkovski, puisqu'il s'agit de Duke Ellington, dans Tout, extrait de l'album de Nutcracker. C'est une reprise de jazz, donc de Casse-Noisette, et nous sommes en 1960 avec Marc Lambron. Tchaïkovski, donc, dans les salles de concert. Tchaïkovski, donc, musique de cinéma. Tchaïkovski, qui a donné naissance à des films consacrés à lui ou à son épouse. Et Tchaïkovski et le jazz. Nous verrons dans un instant avec Marc Tchaïkovski et le rock'n'roll des années 70-80. Le rock néoclassique. Commençons par Ellington.
Oui, un peu d'Amérique. Vous savez que Casse-Noisette date de 1892 et que l'année précédente, Tchaïkovski a donné des concerts aux États-Unis sur la côte Est. Mais là, nous sommes en 1960, donc c'est une suite inspirée de Casse-Noisette. Elle est arrangée par Duke Ellington et Billy Strayhorn. Pour la Columbia, il y a des pointures, Johnny Hodges, Harry Carney au saxophone, Sam Woodyard à la batterie. Alors, c'est le premier album que Duke Ellington consacrait entièrement à un autre compositeur, et à mon avis capitalisant sur l'usage qui avait été fait de cette partition dans le Fantasia de Walt Disney en 1941, dirigé alors par Stokowski. Alors sur la couverture de l'album qui est introuvable aujourd'hui, il y a Tchaïkovski, mais il y a aussi Duke Ellington et Billy Strayhorn, donc le trio.
Keith Emerson, Greg Lake et Palmer, Nutcracker, version rock de Casse-Noisette, c'est live au Newcastle City Hall, nous sommes en 1971, Lambron était aux anges. Personnel, dans ma jeunesse, j'ai un frère que j'ai toujours, qui adorait Emerson, Lake and Palmer, il adorait aussi Yes, il fumait des pétards toute la journée en écoutant ce rock néoclassique qui me portait sur les nerfs, mais qui a eu un succès absolument phénoménal, mon cher Marc.
Je ne vais pas vous parler de mon frère, mais Madame Calfon. Alors, Emerson, Lake & Palmer, c'était un trio de rock progressif, comme on disait, et Keith Emerson, le claviériste, avait une formation classique. Alors, en 1971, il donne une version en public des tableaux d'une exposition de Moussorgsky, mais au rappel, il joue ce Nutcracker, donc adapté de Casse-Noisette. Il y avait une première version par un groupe pop oublié en 1962, Bumble and the Stingers, mais qui avait eu obtenu la première place au hit parade anglais. Moi, j'écoute ça vers 1972 chez mon ami Michel Calfon, qui était le guitariste de notre trio rock lycéen. Et Madame Calfon criait à la profanation. Quand elle a entendu ça, quelle horreur, vraiment. Alors, était-ce de la profanation ou est-ce que c'était une voie d'accès à la musique classique pour des lycéens un peu dissipés? Je vous laisse le choix.
Tchaïkovski, ouverture solennelle, 1812, dans le film V pour Vendetta de James McTagg. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on prononce, mon cher Samuel.
McTagg,
nous sommes en 2005. Voici. Vendetta, James McTagg, 2005. Donc, Samuel, pourquoi avez-vous pris cet extrait?
C'est tout de même extrêmement surprenant. Je veux dire, cette ouverture solennelle a été composée pour célébrer la victoire de la Russie contre Napoléon, donc en 1812. Elle est réutilisée quand même de manière extrêmement surprenante dans ce film très singulier qui est V pour Vendetta, adapté du célèbre roman graphique d'Alan Moore, et qui met en scène dans une d'Angleterre dystopique un justicier qui s'est baptisé V et qui lutte contre le gouvernement fasciste en place. Or, la musique de Tchaïkovski est un élément du film, c'est-à-dire qu'il fait partie de l'histoire du film. Et en fait, ce justicier, en fait, à chaque fois qu'il s'attaque à ce gouvernement fasciste en place pour détruire plusieurs bâtiments du gouvernement britannique, en fait, à chaque fois, imagine que c'est orchestré par Tchaïkovski. Et donc, c'est assez surprenant de voir en fait que Tchaïkovski est régulièrement utilisé au cinéma, en fait, pour briser la mélodie. Il devient, en fait, en permanence, ou du moins très régulièrement, un musicien disruptif.
Voici la chef d'orchestre du Symphonique d'Atlanta, qui est aussi une très grande chanteuse, Nathalie Tuzman. Sur la précision, vous l'écoutez, des partitions de Tchaïkovski.
Il nous donne quand même beaucoup d'informations. Il y a énormément de nuances qui sont indiquées, énormément d'articulations, d'accents, de points. Il y a des nuances extrêmes, comme toujours chez Tchaïkovski, avec 4 fortés ou 4 pianissimo, ce qu'on ne trouve pas dans toutes les partitions d'opéra et pas chez tous les compositeurs. Donc toujours avec ces extrêmes d'émotion qui sont traduits dans les dynamiques. Ce qui est frappant, c'est aussi cette, dans l'écriture, cette manière que Tchaïkovski a de rentrer tout de suite dans l'action.
Voici pour ces propos donc de celle qui dirige le Symphonique d'Atlanta. Le troisième mouvement de Souvenirs de Florence, Quatuor Modigliani plus Victor Julien Laferrière et Violaine des Pérou en octobre 2023. C'est donc Piotr Tchaïkovski. Violoncelliste, une altiste, le quatuor Modigliani, Carole. Là, nous sortons justement de la grande symphonie avec une pléiade de musiciens. C'est un autre aspect.
Oui, c'est beaucoup plus intimiste. Alors, le lyrisme de Tchaïkovski fait merveille, on le sait, du côté de la musique symphonique, du côté de l'opéra, du ballet, mais aussi du côté de la musique de chambre. C'est une œuvre qui lui a coûté des efforts, dit-il, et à laquelle il est actuellement rendu hommage dans un Media Vita, qui est un seul en scène de Cécile Falcon au théâtre de la Reine Blanche, pour ce côté carnet de voyage, qui est effectivement un des aspects de la musique de Tchaïkovski, souvent très dépaysante. Ici, Souvenir de Florence dit bien de quoi il s'agit. Donc pas tout à fait de la musique à programme, mais une musique tellement pittoresque dans son côté descriptif, qu'elle est capable de très grandes invocations sonores.
Tchaïkovski, voici le premier mouvement de la symphonie numéro 4, philharmonique de Leningrad. Nous sommes en 1960. Abandonnons le premier mouvement de la symphonie numéro 4 et revenons donc à ce concerto célébrissime. Marc, est-ce que nous sommes pour conclure? Et les autres ajouteront un mot s'ils le souhaitent au cœur de la culture européenne, ou est-ce qu'il y a quelque chose de slave, d'oriental qui nous échappe? Nous qui sommes maintenant dans un conflit armé avec la Russie entre nous.
Il serait intéressant de savoir d'ailleurs si on joue Tchaïkovski en Ukraine aujourd'hui. Moi, je dirais qu'il était plutôt occidentaliste de revendication, mais qu'évidemment, il est russe d'intonation musicale, si on peut dire. Pour moi, Tchaïkovski, c'est comment est-ce qu'à partir d'un malheur existentiel, on peut faire à la fois du lyrisme noir et de la féerie blanche.
Donc on utilise au fond la biographie, c'est un peu ce qui s'est passé dans le monde du cinéma, Samuel.
Absolument. C'est que justement, les tiraillements de Tchaïkovski, sa sexualité, ont permis de dramatiser à l'extrême et pour le meilleur ce musicien au cinéma. D'ailleurs, ce qui est frappant, c'est que quand il est magnifiquement dramatisé chez Ken Russell ou chez Kirill Serebrennikov, c'est justement son homosexualité qui est mise au centre. Lorsqu'il est mis en scène dans le cinéma soviétique à la fin des années 1960, bien évidemment, on met ça sous le tapis et en fait, il ne se passe rien, cela n'a aucun intérêt.
C'est intéressant, c'est que quand Ken Russell fait Liszt, c'est kitsch. Et quand il fait Listomania, c'est un mauvais film.
Listomania, c'est un navet. Voilà.
Voilà, ce rendez-vous avec Tchaïkovski n'est pas terminé. Merci à tous les trois. Merci Carole. Merci Marc. Merci Samuel. Nous avons rendez-vous avec Josiane Savigno, car nous concluons évidemment avec la littérature. Et ces quelques mots, donc, d'Albert Camus.
Je ne puis vivre personnellement sans mon art, mais je n'ai jamais placé cet art au-dessus de tout.
Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
Et avec Josiane Savigno, pour clôturer ce bande à part consacré à Tchaïkovski, je voudrais au passage rendre hommage à quelqu'un que nous avons tant aimé, Philippe Tesson, un théâtre en liberté. Vous l'aimiez, et même si vous n'étiez pas d'accord forcément avec lui, comme moi, Josiane, mais voici cette anthologie de critiques dramatiques rédigée par Philippe de 1970 à 2022. Venons-en à Jérôme Bastianelli, Acte Sud 2012.
J'ai choisi Jérôme Bastianelli pour plusieurs raisons. Déjà pour pouvoir parler de
Donc
Jérôme...
il s'agit de Tchaïkovski.
Il s'agit de Tchaïkovski. Mais je voulais parler de Jérôme Bastianelli parce que si des auditeurs de Radio Classique ne le connaissent pas encore, il est temps, grand temps de le connaître. Il a écrit non seulement sur Tchaïkovski, je vais en parler, il a écrit sur Bizet, il a écrit sur Félix Mendelssohn, il est président de la Société des Amis de Marcel Proust et il a écrit en 2019 chez Grasset un roman qui s'appelle La vraie vie de Vinteuil et que je vous recommande à tous parce qu'on se met à croire que Vinteuil a vraiment existé. C'est incroyable. Et accessoirement, il est directeur général délégué du musée du Quai Branly. Donc c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Alors, ça, c'est un portrait de Tchaïkovski. C'est pas vraiment une biographie. Il fait allusion à la biographie de référence. Il la cite. Elle a été publiée en 1993 chez Fayard par André Lischke. Et lui, il a un parti pris très intéressant qui mérite d'être détaillé. C'est pour ça que je vais vous lire.
Il fait un peu du comme Eschnoz avec Ravel, c'est ce que vous voulez dire?
Pas vraiment, parce que c'est pas. Enfin, Ravel, c'est un roman quand même d'Eschnoz. Là, c'est pas un roman, c'est un portrait biographique nourri avec ce parti pris qu'il explique. Ce portrait de Tchaïkovski relève d'un parti pris. Plus encore que sur le récit d'une vie, il repose sur l'histoire d'une mort. Plusieurs raisons ont conduit à ce choix narratif. Tout d'abord, les circonstances mystérieuses du décès du compositeur constituent l'une des plus fameuses énigmes de l'histoire de la musique. Cette ténébreuse affaire oppose toujours, parfois violemment, les tenants de l'hypothèse officielle, contamination par le choléra, à ceux qui suspectent un suicide. Il a dès lors semblé utile de présenter les arguments des uns et des autres et d'étudier les questions qui restent sans réponse. D'autre part, la thématique de la mort est plus généralement celle d'un destin inexorable imprègne l'essentiel de l'œuvre du grand musicien russe, ça vous en avez parlé. Et donc en effet, c'est une sorte d'enquête un peu sur ce qui s'est passé. On voit que dans le journal de Rimsky-Korsakov, on dit « mais bien qu'il soit mort du choléra, l'entrée au service funèbre était demeurée libre », ce qui est complètement illogique. Quoi. Mmh. Donc il y a en tout cas, sa mort, ça vous l'avez pas tout à fait dit dans la mission, sa mort a été une vraie tragédie nationale. Tchekhov, Tolstoï, etc. Mais tout de suite...
J'ai parlé de funérailles nationales.
Mais tout de suite, vous y avez fait allusion tout à l'heure, il y a eu des discussions sur le caractère russe de sa musique. Certains disaient qu'elle était occidentale et artificielle. Et puis on a vu qu'il y avait eu des critiques terribles, là, tout à l'heure, elles ont été citées dans l'émission. Donc moi, je vais pas répéter tout ce que vous avez dit sur Tchaïkovski, mais j'ai beaucoup aimé la manière dont Bastianelli traque toutes ces énigmes sur sa vie et sur son œuvre. Par exemple, sa méfiance envers la postérité qui le conduit à coder son journal. C'est quand même assez étonnant, tout ça. Et puis, à un moment, il décide de se marier, alors que vraiment, enfin, avec une femme, puisqu'à l'époque, on se mariait pas avec des hommes, alors que vraiment, c'est pas tout à fait ce qui l'enchante. Et il fait une description à venir de son épouse qui vous prouve qu'il n'est pas vraiment pétri d'amour pour elle. Et il y a une très belle citation de lui qui rejoint tout ce que vous avez essayé de rassembler, me semble-t-il. À travers la musique, je me suis efforcé d'exprimer la douleur et les délices de l'amour. Plutôt la douleur que les délices, à mon avis. Donc le débat critique n'est pas clos, vous l'avez montré. Et puis alors, je dois reconnaître que moi qui ne suis pas tellement intéressée jusqu'ici à Tchaïkovski, j'ai eu un grand plaisir à lire ce Tchaïkovski de Jérôme Bastianelli dans la collection de notre camarade Bertrand Vermoncourt, n'est-ce pas, chez Actes Sud.
Merci mille fois, Josiane.
Tchaïkovski dans vos programmes de Bonaparte. La semaine prochaine, nous rendrons hommage, bien que les conditions soient dramatiques, à Alain Delon, sa carrière. Et donc, toutes les musiques des films d'Alain Delon, vous verrez qu'il existe une incroyable diversité dans sa filmographie de musique, à la fois de la musique classique, Nino Rota, François de Roubaix et tant d'autres, les films de Melville, voire les films, évidemment, de Luchino Visconti. À la semaine prochaine, c'est Bande à part, et nous sommes ravis d'être là pour vous.